VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique australe. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a annoncé ce mardi que la situation redevenait normale dans son pays après la décision des autorités la veille d'interdire les transactions en devises étrangères. Depuis 2009, il était possible de régler les dépenses au quotidien, supermarché, essence, frais d'hôpital par exemple, en devises étrangères, notamment en dollars américains et en rand sud-africain. Un abandon de la monnaie nationale zimbabwéenne décidée à l'époque en raison de sa totale dévaluation suite à une hyperinflation vertigineuse. Les autorités zimbabwéennes ont mis fin à cette situation aujourd'hui. Les Zimbabwéens doivent désormais payer en dollars RTGS. Introduit en février, ils peuvent le faire soit avec des billets imprimés à partir de 2016, soit électroniquement. Nous n'avons pas interdit la possession d'autres monnaies, mais on ne peut plus acheter avec. Il faut aller dans des bureaux de change, a déclaré le président Mnangagwa à des journalistes. Pour tenter de protéger les nouveaux dollars RTGS, la Banque centrale zimbabwéenne a annoncé lundi soir la relève de ses taux d'intérêt de 15 à 50%. Afrique centrale maintenant, en République centrafricaine, l'Église catholique dresse un bilan mitigé de la situation dans le pays. À l'issue de leur assemblée générale, tenue le 23 juin à Bosangoa, les évêques de Centrafrique ont dénoncé la poursuite des violences malgré la signature au début de l'année d'un accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Dans un document de 9 pages, les évêques de Centrafrique ont dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire du pays, malgré l'accord de paix signé en février dernier entre le gouvernement et les groupes armés. Même si les prélats notent la volonté de Bangui à restaurer la paix en redéployant l'armée nationale dans certaines régions, ils mentionnent que ces militaires sont souvent versés dans la pratique des barrières illégales et de la quête des paisibles citoyens. Le document n'a pas été tendre aux groupes armés que l'Église catholique accuse de non-respect de l'accord de paix signé avec le gouvernement et de violence sur des civils et des religieux. Le peuple est fatigué par l'hypocrisie qui caractérise la signature des différents accords qui ont eu lieu dans ce pays, ont dénoncé les évêques. L'assassinat de la religieuse franco-espagnole Inés Sancho à Nola, dans l'Ouest, est aussi évoqué, demandant que lumière soit faite sur ce crime. Les prélats ont par ailleurs mis l'accent sur l'exploitation anarchique des ressources naturelles du pays qui ne profite pas aux populations. Ils attirent l'attention des autorités centrafricaines sur la naissance des milices proches du pouvoir et des conséquences qui pourraient en découler. Enfin, ils demandent à la communauté internationale de faire pression sur les groupes armés afin que ceux-ci respectent leurs engagements. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Corne de l'Afrique, en Éthiopie, funérailles ce mardi à Addis Abeba pour le chef d'état-major de l'armée éthiopienne, le général Seare Mekonnen, assassiné samedi par son garde du corps. Un incident apparemment lié à ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État contre le gouvernement de la région Amara dans le nord-ouest du pays. La présidente Saleh Wordzurdé et le premier ministre Abiy Ahmed étaient présents à cette cérémonie retransmise en direct à la télévision EBC proche du pouvoir. Rappelons que samedi dernier, le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes a été tué par son garde du corps à son domicile d'Addis Abeba, alors qu'il coordonnait une opération en réponse à l'attaque menée dans l'après-midi contre une réunion de hauts responsables de la région Amara à Bahir Dar, le chef-lieu régional. La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Au Burkina Faso, deux gendarmes ont été tués et grièvement blessés lundi lors d'une attaque contre leur véhicule à Orbinda, localité du nord du pays, déjà touchée plusieurs fois par des attaques djihadistes. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la gendarmerie nationale burkinabé. Orbinda a enregistré une série d'attaques meurtrières ces derniers mois. Le 10 juin, 19 personnes y avaient été tuées lors d'un raid opéré par plusieurs dizaines d'individus armés, alors que début avril, 62 personnes avaient été tuées lors d'autres attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires. Au Niger voisin, un groupe de députés de l'opposition a déposé une motion de Censure contre le gouvernement de Brigitte Raffini, dénonçant sa conduite des affaires, notamment sur le plan sécuritaire. L'équipe gouvernementale en place est en poste depuis 2011. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la discussion et le vote de la motion de censure interviennent 48 heures après son dépôt. Le Premier ministre et son gouvernement mettent à profit ce temps pour préparer leur réponse aux griefs portés à leur encontre par les déposants. Griefs qui, pour le cas d'espèce, sont nombreux et évidents selon Issoufou Issaka, député du Modène FA, le principal parti de l'opposition.
Le gouvernement a montré son incapacité à assurer la sécurité dans notre pays. Chaque jour que Dieu fait, c'est des morts qu'on dénombre aussi bien dans les populations civiles que dans les rangs des FDS. Notre pays enregistre des baisses notables des indicateurs de performance. En atteste le classement peu enviable de notre pays au rang d'éternel dernier de la planète en termes d'indice de développement humain. Nous disons trop, c'est trop.
Le texte de la motion a été signé par 35 parlementaires, tous de l'opposition, un chiffre qui est très loin de la majorité d'au moins 85 députés nécessaires pour le faire passer. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Sénégal, le frère du président Macky Sall a annoncé sa démission de la Caisse des dépôts et consignations, institution financière qu'il dirigeait depuis 2017. Aliou Sall avait été épinglé il y a 3 semaines dans un reportage de la BBC sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Abdourahmane Dia.
Dans sa lettre de démission, Aliou Sall a indiqué que cette controverse visait en fait son frère. Il devait lire sa lettre de démission devant la presse, mais en a été empêché par des sympathisants qui s'opposaient à sa démission. En juin 2012, peu après sa première élection, le président Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, d'attribuer l'exploitation des 2 champs pétroliers et gaziers offshore à PetroTim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timmis. Dans un reportage diffusé le 3 juin, la BBC a affirmé qu'Aliou Sall avait reçu en 2014 une prime secrète de $250,000 de la part du groupe Timmis qu'il aurait engagé après l'arrivée de son frère au pouvoir pour un salaire de $25,000 par mois. Aliou Sall a formellement démenti avoir reçu cette prime. Les autorités sénégalaises ont ouvert une information judiciaire.
Et pour terminer, retour sur la journée internationale des veuves, commémorée le 23 juin et adoptée par l'ONU sur proposition du Gabon en 2010. Ismaël Obianze, notre correspondant à Libreville.
8 ans après l'instauration de la Journée internationale des veuves, le Gabon peine à devenir un modèle dans la protection des veuves. Simone Messa, vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.
Le législateur a mis en place l'arsenal juridique pour protéger le conjoint survivant. Mais des pesanteurs sociales, iniques, injustes, persistent. Lorsque les lois ne sont pas méconnues, elles sont tout simplement bafouées. Bien souvent, les personnes spoliées, parce qu'elles sont victimes de sévices, de menaces, de violences physiques ou psychologiques, préfèrent se taire.
Conséquence, la spoliation des veuves persiste et rien ne semble en mesure d'éradiquer ce phénomène. Le témoignage de Félane, épouse Mawamba, veuve depuis 2016.
Pour nous les étrangères, quand le mari décide, donc ça devient autre chose. Quand mon mari a décédé, la belle famille, ils ont refusé de faire le conseil de famille. Mais grâce aux nouvelles lois qui sont sorties, donc comme il n'y a plus le conseil de famille, mon dossier est passé au tribunal et j'ai eu mes droits. Je suis passée par le tribunal, j'ai eu le procès verbal, j'ai eu tout mes papiers. Mais lorsque j'ai déposé mon dossier, arrivé jusqu'à la solde, il n'y a rien jusqu'à présent. Et pourtant, mon mari était un fonctionnaire. Elle était militaire, donc là, je ne comprends pas pourquoi.
C'est une situation parmi tant d'autres qui place les tribunaux devant des difficiles arbitrages. Honorine Zébitégué, magistrate.
Les veuves qui abandonnent les maris, les veuves qui abandonnent la femme, etc. Dès que la femme tombe malade, on la prend, va la jeter chez ses parents et vice-versa. Là, nous sommes dans l'indignité successorale. Mais le tribunal n'est pas au quartier. Les associations, il faut qu'on nous saisisse pour donner des renseignements. Si maintenant l'affaire au tribunal, et si les juges n'ont pas la preuve de ce que vous dites, que telle femme frappait son mari, telle femme enfermait son mari dans la maison, faisait ceci, cela, qu'est-ce que le tribunal peut faire? On va s'arrêter.
Voilà, c'était un panorama de la Journée internationale des veuves présentée par Ismaël Obianze à Libreville.